18h-19h,
Sébastien Guyot sur Europe 1.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre grand journal du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour passer en revue l'actu du jour. Un 14 juillet marqué par des incidents sur les Champs-Élysées. Nous serons sur place dans un instant dans le journal de Fabienne Lemoyle. Et la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq sera notre invitée à 18h30. Elle réagira bien sûr et on reviendra avec elle sur ce défilé du 14 juillet ce matin. Sur les Champs-Élysées, il y a un an quasiment jour pour jour, l'ambiance était bien différente. Souvenez-vous, une foule en liesse pour acclamer les Bleus champions du monde. Invité exceptionnel ce soir sur Europe 1, Didier Deschamps, ce sera à 18h15. Et puis n'oubliez pas votre nouveau rendez-vous gourmand peu avant 19h. Vos régions sur un plateau, on fait le tour de France des spécialités culinaires tout cet été. Et on s'arrête ce soir en Alsace, Flammkuch au menu, traditionnel ou version italienne. Ça vous choque? N'hésitez pas à intervenir.
Il est 18h, bienvenue à tous. Et le journal avec Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Sébastien.
Au menu ce soir.
Le calme est revenu ce soir sur les Champs-Élysées après des tensions cet après-midi. Quelques heures après le défilé, les forces de l'ordre ont dispersé des manifestants. En tout, depuis ce matin, ce sont 175 personnes qui ont été interpellées, le plus souvent pour participation à une manifestation illégale. Des incidents dont quelques heures après un défilé du 14 juillet marqué par deux temps forts. L'image spectaculaire d'un homme volant au-dessus de la place de la Concorde et l'émotion des blessés de guerre salués par le chef de l'État. Les militaires à la rencontre des Français cet après-midi, esplanade des Invalides à Paris. Les forces spéciales faisaient visiter leur hélicoptère. Enfin, la mobilisation en Alsace de la LPO pour prendre en charge les oiseaux déshydratés par la canicule.
Et pour commencer ce journal, direction donc les Champs-Élysées.
Avec des images qu'on avait presque oubliées depuis quelques semaines, poubelles brûlées, barrières métalliques renversées, résultat d'un face-à-face tendu cet après-midi entre manifestants et forces de l'ordre, quelques heures après le défilé. Hélène Terzian, vous êtes sur place et la situation est désormais sous contrôle.
Exactement, Fabienne. La moitié des Champs-Élysées reste bloquée à la circulation, mais les barrières métalliques utilisées par dizaines comme barricades par les manifestants ont été retirées. Elles sont désormais sur les trottoirs. Alors, je le rappelle, la situation s'est tendue en début d'après-midi, peu après le défilé du 14 juillet. Des manifestants se revendiquant gilets jaunes avaient appelé à manifester. Il fallait se faire entendre aujourd'hui, ce jour de fête nationale, explique Priscilla.
Il n'y a rien de plus symbolique que le 14 juillet, c'est la révolution, c'est une date historique. Moi, on l'attendait le 14 juillet depuis des mois de toute façon. Il faut faire réagir le monde, c'est peut-être le seul moyen de communication qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Là, c'était un événement public aux yeux du monde entier, il fallait que tout le monde sache ce qui se passe chez nous.
Voilà, les premiers manifestants qui ont ensuite été rejoints par un autre groupe un peu plus radicalisé, ce qui a donné lieu à un face-à-face tendu avec la police qui a tenté de les chasser par des gaz lacrymogènes. Pour Stefano, étudiant de Grenoble, là aussi, les tensions sont utiles pour faire entendre les revendications des Gilets jaunes.
Je ne cautionne pas forcément les violences qui peuvent être commises aujourd'hui si ça arrive, mais je pense que c'est juste un message pour faire comprendre qu'il y a un problème qui est assez quotidien, que beaucoup trop de Français vivent dans une précarité certaine, et que bon voilà, quoi, de défiler et de ne pas prendre en compte ces considérations, c'est grave.
Voilà, le préfet de police était sur l'avenue des Champs-Élysées il y a encore quelques minutes. Il a dit craindre quelques nouveaux débordements avec la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Nigeria, mais il a assuré que tout allait être sous contrôle.
Hélène Terzian sur les Champs-Élysées pour Europe 1, des incidents qui avaient commencé dès ce matin en marge du défilé. 175 personnes interpellées depuis ce matin, principalement pour organisation de manifestations non déclarées ou encore port d'armes prohibées alors que des gilets jaunes avaient appelé à manifester. Parmi les personnes interpellées, trois figures du mouvement, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez et Éric Drouet. Leurs gardes à vue ont été levées ce soir. Emmanuel Macron, lui, a essuyé des sifflets d'une quarantaine de gilets jaunes au moment où il descendait les Champs à bord d'un commande-car. Des incidents et des interpellations commentées ce matin, avant donc les tensions de cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Il y avait des manifestations interdites, il y avait des gens qui ont organisé une manifestation, il est normal qu'ils en rendent compte, il est normal que la police fasse son travail, et ceux qui sont venus ici pour provoquer, ceux qui ont appelé à des manifestations alors qu'ils savaient qu'elles étaient interdites, doivent aussi l'assumer. J'imagine qu'ils auront autant d'énergie pour assumer des infractions pénales qu'ils en ont pour troubler le défilé du 14 juillet et l'hommage de la nation. Aujourd'hui, j'aurais aimé que l'unité nationale ne soit pas perturbée par quelques dizaines de personnes qui tentent d'empêcher le bon déroulé de la manifestation, qui tentent de faire du bruit, qui tentent de venir de force sur l'étoile et qui multiplient les incidents. C'est regrettable. Je pense que la nation mérite mieux que cela. On n'est plus dans le débat politique, on n'est plus dans la manifestation légitime, on est dans la volonté de nuire et c'est regrettable.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui commentait les incidents ce matin au micro de Jean-Rémy Baudeau.
Et je vous rappelle que la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, sera notre invitée à 18h30. Des incidents qui sont donc intervenus, Fabienne, en marge du défilé du 14 juillet.
Un défilé dont vous nous avez fait vivre les temps forts, Didier François, toute la matinée sur Europe 1, à commencer par cette image qui va rester, un homme volant littéralement au-dessus de la place de la Concorde.
Oui, tout à fait. Donc il s'appelle Zapata, il a un appareil qui s'appelle le flyboard. C'est assez exceptionnel, on dirait un surf, mais un surf qui, au lieu d'aller sur l'eau, flotte dans les airs à une vitesse en plus record. Alors, c'est évidemment pas aujourd'hui opérationnel, mais les forces spéciales ont repéré cette invention parce qu'elle peut être intéressante dans la mesure où, dans du combat en zone urbaine, par exemple, il peut monter très très rapidement à la hauteur d'un immeuble de 30 étages, en face d'une fenêtre où il y aurait un sniper, et puis neutraliser sa cible. Et puis, ça pourrait être aussi, par exemple, utilisé pour aller chercher des blessés et les ramener alors qu'ils ont été sous le feu. Donc voilà, on voit les champs d'exploration de l'innovation pour les armées.
Et puis l'autre temps fort, Didier, c'est ce moment d'émotion quand le président est venu en fin de défilé saluer les blessés de guerre.
Tout à fait, les blessés de guerre étaient à l'honneur de ce défilé. Ils ont eu une séquence entière dès la fin du passage des troupes. Un chant a été écrit et chanté par leurs camarades pour les mettre un petit peu sur le devant de la scène. Des gens qui ont tout risqué pour... dans leur engagement pour protéger la France et les Français. Donc c'était une séquence extrêmement forte. Le président a eu un petit mot, un petit geste pour chacun d'entre eux, mais pour leur famille aussi. Hein, parce que souvent, c'est difficile pour les familles des soldats tués et des soldats blessés de poursuivre une vie normale. Et là, donc, cette solidarité de l'ensemble de la nation était quelque chose de très apprécié.
Merci beaucoup Didier François.
À suivre dans le journal de Fabienne Lemoelle, les Français à la rencontre de leur armée, c'était cet après-midi à l'Esplanade des Invalides à Paris. À tout de suite.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Il est 18h08, la suite de votre grand journal sur Europe 1 avec Fabienne Lemoelle et Sébastien Guyot.
Aller à la rencontre des militaires français.
Voilà ce qu'il était possible de faire cet après-midi sur l'Esplanade des Invalides à Paris. C'est comme cela qu'on pouvait découvrir le travail des forces spéciales qui ont fait visiter l'un de leurs hélicoptères à un groupe. Jean-Sébastien Soldaini les a suivis.
Donc ça, c'est la mission de Resco et c'est la mission.
Le visage masqué par une cagoule, le capitaine Nicolas décrit son appareil à ses visiteurs, répond à chaque question.
Comment sont transportés les appareils comme ça de la France à l'étranger?
Alors soit on les emmène nous-mêmes ou par ravitaillement.
Et après quelques minutes, Gaëtan prend enfin place sur les banquettes, là où les forces spéciales s'apprêtent généralement à intervenir.
On essaie de ressentir leur position, le stress par exemple qu'ils peuvent avoir dans leur mission. J'aurais vu ça plus sérieux et finalement en fait ils sont très accessibles, ils sont à fond pour nous renseigner sur toutes leurs missions, sur tout leur appareil. Ils sont très attachés à ce qu'ils font, ça se ressent et c'est très agréable en fait.
Au fil de la discussion, la cagoule du capitaine Nicolas, qui pourrait impressionner, s'efface, plus aucune distance et le militaire le ressent à chaque échange.
Je veux que les gens puissent poser les questions qu'ils ont envie de poser, je veux que les gens aient accès à mon hélicoptère pour que peut-être de temps en temps un petit enfant rêvant de ça se dise oui, c'est effectivement ça que je veux faire bientôt. Et qui s'y mettent à rêver de plus en plus fort jusqu'à aller se renseigner et puis passer ce qu'il faut passer pour faire ce métier-là. Donc non, la cagoule, moi, ça fait très longtemps que je l'ai oublié.
Ce soldat d'élite le reconnaît, les questions des visiteurs peuvent le prendre en défaut, surtout lorsqu'il s'agit de connaître le bilan carbone d'un hélicoptère d'intervention.
Jean-Sébastien Soldaini.
Dans l'actualité également, l'épisode de canicule qui est fini depuis une dizaine de jours. Et pourtant, Fabienne, les effets se font encore sentir.
Et vous ne le savez peut-être pas, mais les oiseaux sont particulièrement vulnérables pendant ces périodes de forte chaleur, avec leurs petits qui peuvent même tomber des nids déshydratés et affamés. C'est pour cela que la Ligue de protection des oiseaux a dû s'organiser pour les accueillir comme en Alsace, Charlotte Béchler.
Ici, faute de place, les oiseaux sont accueillis sous la pergola de la cour. Des centaines d'oisillons dans des bacs en plastique, sorte de cage de fortune, avec des cartons en guise d'abri et des bouts de bois pour les perchoirs. Ces hirondelles et ces martinets sont amaigris et déshydratés. Laetitia, une soigneuse, les nourrit jusqu'à 8 fois par jour.
Là, c'est une hirondelle des fenêtres, une petite, qui du coup a du mal à se nourrir toute seule. Donc là, je lui ouvre le bec et je lui glisse les insectes dans le bec et je la laisse bien avaler du coup. Et on leur donne une dizaine de grillons par nourrissage.
Et ça n'arrête pas. Avec la sécheresse, une soixantaine d'oiseaux sont déposés chaque jour, deux fois plus qu'en temps normal, explique Suzelle Hurstel, responsable du centre de soins.
Il y en a plus, c'est clair, mais par contre, c'est l'état des animaux qui est impressionnant. Ils arrivent dans un état de maigreur extrême. Et donc, on a des protocoles spécifiques pour pouvoir les réhydrater et ensuite, petit à petit, faire en sorte qu'ils se retapent. Mais ça demande énormément de temps. C'est très très long, très compliqué.
Il faut à l'oiseau entre 2 et 6 semaine pour se remettre sur pied. Alors pour éviter le pire au prochain pic de chaleur, il suffit de mettre une petite coupelle d'eau en hauteur, pas trop profonde, pour éviter que les oisillons ne se noient. Rosenviller, Charlotte Béchler, Europe 1.
Et voilà pour conclure le journal de Fabienne Lemoelle. À tout à l'heure, 19h Fabienne.
Europe 1, 18h11.
La météo, Elena Morna, demain, très belle journée, sauf sur le sud-est.
Oui, exactement, à cause des orages attendus entre les Alpes du Sud et le nord de la Corse. Attention, ces orages seront parfois forts, avec de bonnes averses et du vent. Ils vont durer le temps d'une journée, hein, le temps qu'une dépression s'évacue par le golfe de Gênes, météo bien instable d'ailleurs en Italie demain. En dehors de ces orages, on aura des nuages et de rares averses, parfois un coup de tonnerre entre la Haute-Savoie, le Lyonnais et l'est du Rhône. À signaler aussi ce vent de nord qui se renforce dans le couloir rhodanien, du Mistral, donc jusqu'à 90 km/h. Les températures toujours bien agréables, elles remontent d'ailleurs dans le nord-est après la fraîcheur du jour. On reste à 19-20 degrés à Dunkerque et Cherbourg, 23 à Lille, 25 à Rouen, Verdun et Nice, sous les orages, 26 à Brest, Paris et Strasbourg, vous voyez ça monte à Strasbourg, 27 à Bourges, Biarritz et Dijon, 28 pour Nantes et Lyon, 28 aussi à Bordeaux et Toulouse, 30 à Marseille, jusqu'à 33 à Montpellier. Mardi et mercredi, deux belles journées, jeudi on attend, on espère, la pluie sur le nord-ouest, petites pluies passagères qui vont faire un tour et puis s'en vont.
Merci Elena Morna, à tout à l'heure 18h30 pour la météo des plages.
Le journal des sports.
C'est avec Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Sébastien.
Le Tour de France pour commencer, un invité surprise pour la victoire, mais bonne nouvelle, le maillot jaune ne change pas de propriétaire.
Julien Alaphilippe reste en jaune au terme de cette 9e étape, une course un peu moins animée qu'hier, c'est pas tous les jours Byzance. On retrouve Axel May, notre envoyé spécial sur le Tour. Axel, voilà une échappée qui va encore au bout, avec un vainqueur presque surprise, Daryl Impey.
Daryl Impey, oui, le Sud-Africain. Alors d'abord, une échappée de baroudeurs comme hier, qui est allé au bout. Il y avait 15 hommes au départ, et puis dans le final, le groupe a éclaté. Daryl Impey, 34 ans, a réglé aisément au sprint son dernier compagnon d'échappée, le Belge Tish Benoit. Alors, Impey, on le connaît un peu. Lors du Tour 2013, il avait porté le maillot jaune 2 jours, et il devenait à l'époque le premier représentant du continent africain, puisqu'encore une fois, les Sud-Africains a porté la tenue de leader avant de la céder au Britannique d'origine kenyane, Chris Froome. Impey s'offre la plus prestigieuse victoire de sa carrière, et nos Français dans tout ça, eh bien, Romain Sicard et Anthony Delaplace étaient représentés dans l'échappée matinale en ce jour de fête nationale avant de céder dans la dernière difficulté de la journée. Alaphilippe, lui, vous l'avez dit, reste en jaune. Le peloton qui a franchi la ligne d'arrivée avec plus, tenez-vous bien, plus de 16 minutes de retard sur Daryl Impey.
Axel May en direct de Brioude sur la route du Tour de France. Julien Alaphilippe effectivement toujours en jaune, Peter Sagan reste en vert et Tim Wellens, le Belge, conserve son maillot de meilleur grimpeur.
La Formule 1, rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Lewis Hamilton a tout d'un lièvre, mais il a aussi la science de la tortue, cher agent de La Fontaine. Le Britannique remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne pour la 6e fois, record absolu. Il devance son coéquipier Valtteri Bottas qui avait pourtant signé la pole position. Charles Leclerc monte sur la 3e marche du podium. Pierre Gasly termine 4e au classement pilote. Lewis Hamilton prend le large. Il possède 39 points d'avance sur son dauphin Valtteri Bottas.
Le football, demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire en Égypte. On connaîtra ce soir le nom des finalistes.
La première demi-finale a commencé depuis une dizaine de minutes entre le Sénégal et la Tunisie, 0-0 pour l'instant. Et à 21h ce soir, l'autre demi-finale opposera l'Algérie au Nigeria.
Les mondiaux de natation en Corée du Sud et un échec qui rappelle de mauvais souvenirs à Aurélie Muller.
La double championne du monde n'ira pas aux Jeux de Tokyo puisqu'elle prend la 11e place du 10 km en eau libre. Seules les 10 premières étaient qualifiées pour les JO. La nageuse échoue pour 1/10 et la Fédération française annonce déposer une réclamation pour geste antisportif d'une concurrente. Il y a 3 ans, aux Jeux de Rio, Aurélie Muller avait été disqualifiée et privée de médaille d'argent Milan, malgré les réclamations, là encore, de la fédération.
Alors, on parlait des Jeux de Tokyo, la route se rétrécit aussi pour les filles du rugby à 7, mais l'espoir reste entier pour les garçons.
Les filles échouent en demi-finale du tournoi de qualification olympique face à l'Angleterre. Dernier espoir, le tournoi de repêchage qui aura lieu l'année prochaine. Quant aux garçons, s'ils battent l'Angleterre tout à l'heure, ils seront directement qualifiés pour les Jeux sans passer par la case repêchage.
Et puis bien sûr, on jette un œil à la finale de Wimbledon. Federer-Djokovic, suspense entier.
Suspense entier, puisque nous sommes dans la cinquième et dernière manche. Deux manches partout entre Djokovic et Federer. Djokovic qui mène 1-0 dans la cinquième, mais Federer au service pour revenir à 1-partout.
Merci Christophe Lamarre. On suivra ça bien sûr dans cette édition.
Europe 1.
Vous restez avec nous, dans un instant on va revivre des émotions très fortes tous ensemble. Vous vous souvenez forcément où vous étiez le 15 juillet 2018, il y a pratiquement un an. Et oui, la France décrochait une deuxième étoile, Fatima, les bleus champions
Allez,
du monde.
Les bleus, non c'était on est champions plutôt.
Invité exceptionnel dans un instant sur Europe 1, Didier Deschamps.
Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez.
Elle est là la coupe, à tout de suite.
Sébastien Guyot sur Europe 1. Il est 18h16, bienvenue et bonne soirée avec votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Guyot.
Et nous allons revivre des moments magiques tout de suite avec notre première invitée, Fatima. Bonsoir Didier Deschamps.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est un plaisir et un honneur. Il y a un an, pratiquement, jour pour jour, le 15 juillet 2018, la France entière exultait grâce à vous et grâce aux Bleus.
C'est terminé ! La France est championne du monde ! Pour la deuxième fois de son histoire, ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité. Ils sont en larmes dans le rond central. Didier Deschamps, enlacé par son staff, l'équipe de France pour l'éternité.
Didier Deschamps, un an après, quand vous réentendez ça, Simon Rubin, commentaire pour Europe 1, vous avez toujours des frissons. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous ressentez?
Je l'entends pour la première fois, donc je le re-entends pas, parce que il y a un an, j'étais sur le terrain. Mais oui, ça reste, évidemment, il y a toujours un côté émotionnel qui est là. C'est à la fois un peu loin, parce que ça fait déjà un an, le temps passe vite, mais il y a encore, évidemment, beaucoup d'images qui restent dans nos têtes, dans l'esprit, toute cette aventure sportive avec le résultat que vous connaissez, mais l'aventure humaine aussi. Donc évidemment, c'est des grands moments que l'on connaît surtout dans le sport, parce qu'il y a ce côté émotionnel qui est différent par rapport aux autres mondes professionnels. Quoi.
En tant que cas, nous ici, comme les auditeurs d'Europe 1, j'en suis sûr, comme des millions de Français, on a encore des étoiles plein les yeux. Les Bleus, eux, en ont deux hein, sur leur maillot. Et vous, Didier Deschamps, vous êtes le seul en France et quasiment dans le monde, aller avec Beckenbauer et Zagallo le Brésilien, à les avoir décrochés en tant que joueur et entraîneur. C'est pas trop dur de se remettre au boulot après ça, d'aller jouer en dehors par exemple, dans un stade décrépit. Comment vous gérez ces moments hors grand rendez-vous?
Non, c'est pas dur, je vous assure, c'est vraiment un plaisir, une fierté. Après, la question ne se pose pas pour moi et ne s'est pas posée de remise en question ou quoi que ce soit. À partir du moment où ma motivation, ma passion était toujours à son maximum, j'ai estimé qu'il y avait encore de belles choses à faire. Et les belles choses, ça passe par des objectifs différents, évidemment. Je ne vais pas vous cacher que rien ne peut être au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, mais il y a d'autres objectifs. Ça passe par Andorre, ça passe par des matchs de qualification. Il y a toujours des étapes. Ce n'est pas se voir déjà qualifié pour le prochain championnat d'Europe. Il va falloir se qualifier, aller chercher les points dont on a besoin dans ces matchs de qualification. Donc, ce n'est pas banaliser, mais au contraire, c'est se remettre en question, garder l'exigence qui nous a permis d'arriver à ce titre mondial, ne pas oublier pourquoi et comment on y est arrivé, les joueurs aussi, parce que c'est surtout avant tout le mérite des joueurs, puisque ce sont eux les acteurs, et quant à moi et l'ensemble de mon staff, c'est même si on a fait des choses bien, même très bien, on peut toujours mieux faire, donc on peut toujours s'améliorer et maintenir ce devoir d'exigence, parce que le haut niveau, c'est être compétitif, c'est... Voilà, je vais...
Alors les joueurs...
Oui.
Les joueurs, justement, Didier Deschamps, un an après, qu'est-ce qui reste de tout ça? Vous aviez dit qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes, ces joueurs, qu'ils étaient liés à vie par cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est aussi simple quand on voit, par exemple, les difficultés d'un Adil Rami qui a vécu une année très difficile, qui est mise à pied par l'OM? Qu'est-ce que vous lui dites à Rami, par exemple, aujourd'hui?
Non, mais chaque joueur peut avoir une route et un chemin différent. Je leur ai dit, ça n'enlèvera rien. Ce qu'ils ont vécu ensemble, ces 23-là, ils sont liés à vie. comme moi j'ai pu l'être il y a 20 ans. C'est pas pour autant qu'ils se reverront tous. Ils peuvent prendre des chemins différents, je le répète. Mais cet événement-là et ce titre mondial les lient. Ils ont ça entre eux, ils garderont ça à vie. Ça, c'est quelque chose. Personne ne pourra leur enlever ça.
Mais en tant que sélectionneur, en tant que meneur d'hommes, en tant qu'homme respecté, comment vous aider, je reprends l'exemple d'Adil Rami, dans cette passe difficile, par exemple?
Bah écoutez, je fais en sorte de garder des contacts avec les joueurs. Ils échangent, on échange entre nous, avec mon adjoint aussi, évidemment, Guy Stéphane. Ponctuellement, s'ils ont besoin, ils savent que je suis disponible. Après, c'est leur vie. Hein. Moi, je les ai quand ils sont avec moi en sélection. C'est pas parce qu'ils ont été ces 23-là champions du monde qu'ils seront forcément avec moi. Ils n'ont pas tous été pour les matchs qui ont suivi la saison d'après. Donc, il y a une vie après ce titre de champion du monde. Mais s'ils ont besoin, c'est pas d'aide, c'est plus un avis. Après, c'est leur carrière. C'est à eux de faire les bons choix, de choisir. Je ne suis pas à leur place, je leur donne mon avis, ce que je pense être le mieux pour eux, mais après c'est leur décision.
Les joueurs, c'est aussi l'exemplarité que vous préconisez. Vous avez eu la Légion d'honneur, tous, là, au début du mois de juin. Est-ce que ça vous paraît normal que des footballeurs accèdent à un tel honneur, justement ?
C'est toujours un sujet un peu sensible. L'exemplarité, j'aime pas trop ce mot-là. Je prendrais plus un mot qui ressemble, ce sont des exemples, c'est différent. L'exemplarité, on n'a pas droit à l'erreur, mais ce sont des êtres humains, les footballeurs comme toute autre personne, et ils ont droit à l'erreur, mais ils ont conscience, ils doivent avoir conscience, et ils en ont conscience que ce sont des exemples pour la nouvelle génération. Donc ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent dire, en bien ou en mal, il y a de grandes chances que ça soit reproduit par les plus jeunes. Non, pour la Légion d'honneur, écoutez, c'est une fierté, un honneur. Voilà, la Légion d'honneur, elle a deux mérites. Après, il y a un côté mérite par rapport à avoir mis notre pays, la France, en valeur à l'étranger. Je pense que c'est le cas à travers la victoire en Coupe du Monde. Et puis après, il y a un mérite, je dirais, plus militaire et au combat, où là, il y a des gens qui, évidemment, peuvent perdre la vie ou sauvent des vies aussi. Donc, ce n'est pas opposer les deux. J'ai eu la chance de l'avoir en 98 et là, de monter de grade. Voilà, c'est quelque chose dont je suis fier. Je ne vais pas le revendiquer outre mesure. Mais à partir du moment où le parcours de l'équipe de France a permis le temps de quelques semaines, un petit mois, de réunir tout le monde dans notre pays, et puis les images positives qu'on a pu véhiculer dans le monde entier, ça c'est quelque chose d'important par rapport à l'image de la France.
Alors cette génération de joueurs qui nous a fait vibrer, les Mbappé, les Pogba, Griezmann, Pavard, pour la plupart ils font partie de ce qu'on appelle la génération Z, celle qui célèbre ses victoires avec des selfies par exemple, des vidéos, et qui n'hésite pas, vous vous en souvenez forcément, à interpeller le chef de l'État dans les vestiaires.
Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant?
Ah ouais,
le...
Et oui, le dab de Mendy et Pogba avec Emmanuel Macron, c'est drôle, mais au-delà de l'image, Didier Deschamps, ils sont gérables, vos joueurs, quand ils vous vannent, ça doit arriver. Comment vous réagissez? Vous chambrez? Vous jouez au père Fouettard?
Il faut un peu des deux. Sincèrement, je n'ai pas de difficulté à les gérer. C'est une génération qui est un peu différente, même si bon, j'avais des jeunes qui avaient 20 ans. J'avais certains comme Pogba, Griezmann, qui sont Varane, Umtiti, qui ont 25 ans, qui sont un peu entre les deux, et quelques plus anciens qui ont la trentaine. Il faut un mélange de tout ça, avec des centres d'intérêt différents, mais... C'est une génération qui est très affective, donc évidemment, il faut être à l'écoute, il faut passer beaucoup de temps à discuter avec eux collectivement et individuellement. Mais moi, je prends le bon côté, hein. Il ne faut pas leur prendre le mauvais côté, même de la nouvelle génération. Ils veulent tout de suite, mais voilà, ils se donnent les moyens aussi. Et il faut avoir le bon canal. Voilà, je ne parle pas de la même façon avec un qui a 20 ans qu'un qui a 30 ans, mais ils sont dans un cadre de travail et un cadre de vie qui sont identiques pour tout le monde. Ça, c'est très important.
En un mot, Didier Deschamps, vous avez 50 ans. La Fédération française de foot en a 100. Vous êtes indissociable ou presque. À tel point d'en devenir président en 2021?
Non, non.
Après avoir gagné l'Euro avec les Bleus?
Non, ça, c'est pas prévu. Je n'ai aucune aspiration de dirigeant ou fonction politique ou autre. Aujourd'hui, mon seul plaisir passe par le terrain et... On verra bien plus tard, mais je ne me pose même pas la question. Je suis très bien où je suis et épanoui comme ça. Et chacun est à sa place. C'est parfait.
C'est parfait. Pour finir, Didier Deschamps, je vous demande de faire un choix crucial, un choix musical entre ça...
Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez.
Et ça... Alors ?
Ben, je fais pas de choix, parce qu'une étoile plus une étoile, ça fait deux étoiles.
Et ça fait deux chansons, merci. Merci beaucoup Didier Deschamps
merci
d'avoir
à
été
vous.
Avec nous ce soir sur Europe 1. Demain, ça fera donc un an que les Bleus ont décroché leur deuxième Coupe du Monde. Fêtez bien cet anniversaire Didier Deschamps.
Merci, j'y compte bien.
Bonne soirée.
Europe 1.
Dans un instant, on change de registre. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, c'est elle qui a accueilli Emmanuel Macron avec Florence Parly et Édouard Philippe ce matin sur la place de la Concorde. Nous reviendrons bien entendu avec elle sur l'actu du jour, le défilé du 14 juillet et les débordements sur les Champs-Élysées. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot. Et c'est l'heure de retrouver l'essentiel de l'actualité et surtout votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot.
Oui, dans la prochaine demi-heure, retour sur le défilé du 14 juillet et les incidents sur les Champs-Élysées avec la secrétaire d'État aux armées. On parlera aussi médias avec une série documentaire passionnante qui tente de lever le secret de la longévité des centenaires en bonne santé, vous verrez. Et puis à 18h50, votre rendez-vous culinaire de l'été, vos régions sur un plateau ce soir, la flamme cuche. Mais d'abord donc, le rappel des titres, c'est avec vous Sophie Echène.
Le retour au calme sur les Champs-Élysées ce soir après les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre cet après-midi. Des heurts ont éclaté après le défilé du 14 juillet. La police a fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises. 175 personnes ont été interpellées depuis ce matin. Parmi eux, trois figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, Éric Drouet et Maxime Nicole. Leur garde à vue a été levée en fin d'après-midi. Un défilé marqué par plusieurs temps forts ce matin, des robots, des drones et un homme volant propulsé dans les airs par des réacteurs. Symbole des innovations qui étaient à l'honneur et puis l'hommage aux blessés de guerre d'Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel. La sécurité est toujours renforcée à Paris, notamment pour le feu d'artifice prévu ce soir, mais aussi en prévention de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Nigeria à 21h. Les autorités craignent de nouveaux débordements après les dégradations de jeudi dernier par les supporters algériens. La finale homme de Wimbledon, un match très serré entre Roger Federer et Novak Djokovic. 2-7 partout actuellement entre le Suisse et le tenant du titre. C'est un cinquième set décisif qui se joue en ce moment. Et puis la 9e étape du Tour de France, remportée par Daryl Impey. Premier succès dans la grande boucle pour le coureur sud-africain. Le maillot jaune reste sur les épaules de Julien Alaphilippe.
Merci Sophie Echène. Un mot de la météo des plages avec Elena Morna. Elena, une très belle journée attend les vacanciers demain.
C'est effectivement une belle journée de plage demain sur la mer du Nord et la Manche. Un ciel d'éclaircie, 19 degrés sur la plage et dans l'eau à Berck-sur-Mer. C'est donc plus simple d'y rentrer quand la température est la même. Ciel bleu sur la Bretagne et la Vendée avec 21 à 26 degrés sur le sable demain après-midi. Plus compliqué du coup de rentrer dans une eau à 19 degrés entre Brest et les Sables d'Olonne. Ça fouette, mais ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de rester tout tranquille sous son parasol avec un bon bouquin entre les mains ou en guise d'oreiller sur les plages du sud atlantique. De belles éclaircies et 28 degrés par exemple à Bidart, une mer à peine ridée. Bref, on range la planche de surf. Pas de surf non plus sur la Méditerranée avec une mer calme, 34 degrés sur la plage de Marseillan dans l'Hérault, 24 dans l'eau. Et puis une baignade déconseillée entre hier, Nice et le nord de la Corse à cause des orages attendus en fin d'après-midi.
Merci Elena, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 19h.
18h32, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Guyot.
Et je reçois à présent la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Bonsoir Geneviève Darrieussecq.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Le 14 juillet, c'est la fête nationale en France, fête en partie gâchée aujourd'hui. Votre première réaction ce soir aux débordements et aux affrontements qu'on a vus sur les Champs-Élysées ?
Je le regrette profondément. Le 14 juillet, c'est la fête nationale, vous l'avez dit. Ça doit être une concorde nationale. C'est la fête de tous les Français. Je pense que les Français sont très attachés au 14 juillet, à ces moments de retrouvailles, à ces moments festifs aussi, à leur défilé militaire du matin. Et que quelques individus viennent troubler de façon violente et de façon, semble-t-il, préméditée, ces instants, je trouve ça vraiment navrant.
On ne pouvait pas éviter ces images, on ne pouvait pas enlever les barrières qui ont été laissées sur place, les barrières de sécurité. On n'avait pas anticipé, le gouvernement n'avait pas anticipé la venue des manifestants casseurs.
Je pense qu'il y a des temps. J'ai été maire et je sais très bien comment les choses se passent. Vous avez une installation qui est très lourde. Les participants et les spectateurs du 14 juillet sont partis vers 12h30, 13h, et il faudrait mettre en place des armées de techniciens des villes pour sortir ces barrières et les ranger. Certainement que tout cela n'a pas été fait assez rapidement, mais je crois qu'on ne peut en tenir rigueur ni au gouvernement ni à la mairie de Paris, mais que ces actions étaient très vraisemblablement préméditées.
Il n'y a pas de crainte à avoir pour ce soir, notamment après les incidents qu'il y avait eu aussi autour du match de la CAN de football sur l'Algérie. Est-ce qu'il y aura d'autres incidents à prévoir ? Est-ce que vous allez renforcer la sécurité ce soir aux abords des Champs-Élysées ?
La sécurité a été de toute façon renforcée pour toute la journée par le ministre de l'Intérieur et par le préfet de police de Paris.
Mais ça n'a pas suffi,
qui ont bien, visiblement. Qui ont bien expliqué que les moyens étaient renforcés en ce 14 juillet où nous savons qu'il y aura d'abord du monde. Et j'espère qu'il y aura du monde dans un esprit festif, joyeux. Il y a un beau feu d'artifice. Il y a souvent des déambulations joyeuses dans Paris et qui sont quand même assez sympathiques et même magnifiques pour notre pays. Qu'il y ait des perturbateurs, je souhaite que les forces de police puissent contenir cela le plus rapidement possible s'il y en avait. Et il y a bien sûr, vous l'avez dit, le résultat du match de football, mais là aussi, je pense que les Algériens peuvent venir se mêler. Les Algériens, les Français, d'origine algérienne, peuvent venir avec les autres concitoyens faire la
victoire.
Fête.
Alors revenons sur ce défilé. Ce matin, ce sont les blessés de guerre qui ont clôturé le défilé. L'un d'eux était avec nous hier soir sur Europe 1. Vous qui êtes médecin de formation, c'est l'un de vos combats. Hein. En tant que secrétaire d'État, l'attention portée aux blessés et leur accompagnement vers la reconstruction. Ce matin, vous avez longuement échangé avec eux à l'issue du défilé. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient heureux, fiers et que l'État faisait suffisamment pour la reconstruction, justement pour les aider ?
Je vais vous dire, a priori, je pense qu'on ne fait jamais suffisamment. Mais nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les soutenir du début de leur blessure à leur reconstruction, bien sûr, et à leur réinsertion dans une vie professionnelle et dans une vie privée de bonne qualité. Nous accompagnons également les familles et cet accompagnement ne cesse jamais. C'est-à-dire que si au bout de pendant une période de quelques années, ils vont bien et n'ont pas besoin de nous, eh bien, nous ne les voyons plus. Mmh. Et si, à nouveau, les choses se dégradent, eh bien, nous sommes toujours là. Donc, c'est les armées, c'est une famille qui prend soin de ses enfants, quel que soit l'état de ses enfants, et surtout avec une attention très particulière pour ses blessés.
Alors, autre image marquante de ce défilé, c'était ce qui était consacré aux innovations, notamment, et cet homme volant, armé d'un fusil dans le ciel, au-dessus des Champs-Élysées, incroyable image. Franky Zapata, champion du monde de jet ski, debout sur son flyboard. Concrètement, qu'est-ce que l'armée va faire avec cette plateforme ?
On peut imaginer à terme des militaires se déplaçant dans ces conditions, avec la technologie qui évolue.
À terme, c'est quand ?
Je ne pourrais pas vous dire tout cela, et je crois que personne ne le pourra, mais les choses vont très rapidement dans l'innovation. Notre ministère, avec Florence Parly, s'est ancré totalement dans l'innovation, et de façon non seulement très concrète, mais aussi avec des budgets conséquents, afin justement que nous ayons un coup d'avance, et que nous puissions déployer toutes les technologies nécessaires à des guerres qui seront... ou à de la défense, qui sont forcément totalement différentes dans les années à venir.
Ça a un coût, vous le dites, ça veut dire qu'il va y avoir un budget en augmentation pour l'armée
l'année
prochaine ?
Il y a un budget qui est prévu dans la loi de programmation militaire
jusqu'en
pour
2025.
L'innovation, jusqu'en 2025, qui est un budget conséquent. Et cette innovation permet d'abord à nos soldats d'être mieux protégés, et puis aussi de pouvoir se déplacer différemment, et puis de pouvoir avoir ainsi... des actions plus pertinentes, plus efficaces. C'est vraiment dans cette innovation qu'il nous faut aller.
Alors sur l'efficacité justement, parmi les innovations, il y a ces drones de nouvelle génération. Hein, d'ici à la fin de l'année, l'armée va équiper ces drones de munitions, de bombes donc, je crois de 250 kilos. C'est une première. Certains craignent avec ça des assassinats ciblés, des dommages collatéraux. Qu'est-ce qui va garantir le respect du droit ?
D'abord, un drone, il y a toujours un homme derrière, ou une femme. Un drone n'est pas seul à décider où il doit aller et ce qu'il doit faire. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Les militaires qui commandent les drones, qui pilotent les drones, sont des militaires très expérimentés. Ensuite, eh bien, je pense que tout est bien sûr question d'appréciation dans un conflit et les drones permettent des frappes très précises dans des endroits très ciblés.
Donc pas de risque de dommages collatéraux selon vous ?
Écoutez, je ne vais pas vous dire pas de risque. Malheureusement, un conflit et des bombes, il peut toujours y avoir des risques collatéraux. Mais je pense que les armées françaises ont démontré depuis longtemps qu'elles étaient en capacité de pouvoir cibler leurs interventions de façon très précise afin de tout simplement frapper l'ennemi, mais ne pas frapper les populations.
Geneviève Darrieussecq, hier soir, vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron à l'hôtel de Brienne. Le chef de l'État a annoncé la création d'un commandement militaire de l'espace. Alors, ça sera en septembre prochain à Toulouse. La ministre Florence Parly a annoncé qu'il y aurait 200 personnes au départ. À terme, combien de personnes ?
Je ne peux pas vous dire ce que cela représentera à terme, mais 200 personnes dans une unité de commandement pour cette... Je veux dire, cette orientation importante vers l'espace. L'espace, c'est un monde très particulier. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a environ 1500 satellites qui gravitent autour de la Terre, 7000 potentiellement dans quelques années.
Dans 10 ans, oui, on pense.
Les Chinois, les Américains, les Russes sont déjà... C'est un secteur à la fois de force et de fragilité.
Et nous avons besoin,
de force, de fragilité, d'espionnage. Et ce sont des satellites qui ont des données très sensibles et surtout qui permettent et à nos armées, à nos hôpitaux et même à toutes nos télécommunications de pouvoir circuler. Donc, il faut vraiment que nous ayons, que nous soyons dans ces orientations qui sont, je crois, des enjeux du 21e siècle.
Parce que la France doit se méfier de la Chine, de la Russie et même des États-Unis. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron à ce micro, au micro de Nikos Aliagas en novembre dernier. Les Américains nous menacent ?
Tout le monde espionne tout le monde.
C'est normal. Alors ce matin, sur les Champs-Élysées, nous avons vu les innovations de l'armée française. Nous avons vu 4300 militaires, une démonstration de force. Et pourtant, l'armée française manque de bras. Même si vous recrutez, les militaires sont de plus en plus débauchés par le secteur privé. Comment vous allez faire pour y faire face ?
C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu parce que nos militaires, nous les formons bien. Et ce sont des professionnels extraordinaires. Et c'est vrai que le secteur industriel peut avoir tendance à venir les cueillir chez nous, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc il faut que nous travaillions d'abord dans l'attractivité et la fidélisation. Et puis je crois qu'il faudrait que nous ayons une véritable stratégie gagnant-gagnant avec le secteur industriel, afin que nous puissions former ces militaires, nous puissions les avoir en mission dans leur formation pendant un certain nombre d'années. Et puis ensuite, puisque nous sommes dans une... plus qu'une philosophie, nous sommes une gestion des ressources humaines pour avoir une armée jeune, pouvoir les libérer au niveau d'un certain nombre d'années afin qu'ils puissent rejoindre ces entreprises.
Merci Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, d'avoir été notre invitée ce soir sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, on parle médias. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des zones bleues, des zones où les plus de 90 ans et les plus de 100 ans sont en bonne santé ? Eh bien, ça existe. Ça donne lieu à une série incroyable sur France 5, une série documentaire. Vous voulez connaître leurs secrets ?
Oui.
Eh bien, restez avec nous. À tout de suite.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Il est 18h43, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, votre grand journal du soir se poursuit avec Sébastien Guyot. Vous avez une bonne nouvelle pour nous.
Oui, c'est une série documentaire absolument incroyable dont nous allons parler maintenant et que je vous recommande chaudement. Les zones bleues, c'est le mardi soir sur France 5.
En différents points du monde, des scientifiques de renom ont repéré des lieux surprenants appelés zones bleues, où vivent un nombre élevé de nonagénaires et de centenaires en excellente santé.
Alors ces zones bleues vont vous emmener au Costa Rica, en Grèce, en Sardaigne, au Japon. Vous allez découvrir la charmante Sumiko, le sportif Saul et ses 102 ans, ou encore Yuana et ses 108 ans qui vit dans une île reculée de la mer Égée. Tous et toutes en pleine forme. Et ceux qui les ont rencontrés eux et d'autres, pour cette série de documentaires, sont avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Vincent Vallinduc.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, merci d'être en studio avec nous. Et en ligne, elle a une bonne excuse, Angèle Ferreux-Mag, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Vous êtes naturopathe, chef, et vous avez donc fait le tour du monde tous les deux pour discuter avec ces centenaires et essayer de comprendre le secret de leur longévité. Vous l'avez percé, ce secret ?
J'ai envie de dire oui. Hein. Angèle et moi avons mené une enquête assez studieuse.
Non, je ne pense pas qu'on ait percé le secret. En tout cas, on a découvert quatre piliers très très importants.
Alors, on va y revenir sur ces quatre piliers que l'on découvre au cours de ces quatre épisodes de 52 minutes, diffusés dont le premier, mardi dernier, c'était à 20h50 sur France 5. C'était au Costa Rica, avec des histoires humaines totalement incroyables. Vincent, on vous voit notamment faire un bras de fer avec Pablo, 96 ans, et vous manquez de perdre hein, d'ailleurs.
Et effectivement, il avait un énorme biceps. D'ailleurs, j'avais absolument pas le soutien d'Angèle sur ce coup-là. Mais oui, non, il y avait une capacité musculaire, une force musculaire qui était assez dingue hein, pour quelqu'un de 96 ans. C'est bluffant.
Alors, dans cette péninsule de Nicoya, Angèle Ferreux-Mag, 13% de la population a plus de 90 ans, 5% plus de 100 ans. Alors, on voit un centenaire danser, un autre faire une espèce de vélo, d'appartement. C'est quoi leur secret ? Vous qui êtes chef et naturopathe, ça passe par la nourriture ?
Évidemment, ça passe en partie par la nourriture, mais il y a aussi plein d'autres aspects. Mais par rapport à la nourriture, ils ont tous en commun de manger des produits bio parce qu'ils sont dans des endroits très isolés, donc à l'abri de tous les pesticides et de la mondialisation, et rien d'industriel. Ils ont souvent leur propre petit potager et ils mangent des produits simples, en fait.
L'alimentation, c'est un des quatre piliers dont vous parliez.
Oui.
Exactement.
Il y en a d'autres. L'autre pilier, vous qui êtes médecin, Vincent, c'est l'ADN.
Effectivement,
évidemment.
L'un des piliers également est l'ADN. Et vous avez également l'activité physique et puis le lien social. Alors ça, c'est des piliers dont on pourrait déjà à l'avance savoir qu'ils ont un impact sur la longévité. En revanche, la proportion de chacun pour vivre longtemps et en bonne santé, ça, c'était hyper intéressant de le découvrir, notamment avec Gianni Pes, qu'on découvrira mardi prochain dans l'épisode de Sardaigne, qui va mettre en avant qu'au final, le patrimoine génétique n'est responsable que de la bonne santé et de la longévité autour de 20% seulement, et les 80% restants, à savoir les trois piliers, on a dit activité physique, lien social et alimentation, à hauteur de 80%.
D'accord. Et sur l'alimentation, on le voit dans ces documentaires, il y a notamment au Costa Rica la papaye, les haricots, le maïs, courge, et plus surprenant, le sucre. Angèle Ferreux-Mag.
Alors oui, en fait, c'est pas vraiment le sucre, c'est le maïs. Et donc, on sait que le maïs contient beaucoup de sucre, mais contient aussi beaucoup de fibres et plein de bonnes choses, notamment des minéraux, etc. Donc, en fait, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, parce que pour moi, c'est extrêmement important de se mettre ça dans la tête. Le meilleur des secrets, c'est de manger des produits bruts. C'est pas de bannir le sucre, de bannir la graisse, de bannir même la viande. C'est juste de manger des produits simples et de saison et locaux et bien cuisinés. En plus, c'est bon.
Avec notamment le maïs violet, hein, qu'on ne trouve pas n'importe où.
Voilà, le maïs violet qui contient de la phytocyanine, qui est un antioxydant très important.
Alors, vous parliez, Vincent, du lien intergénérationnel, et c'est ce qui ressort de ces documentaires, vous le verrez mardi soir encore. S'occuper des petits-enfants, d'avoir un lien avec eux, vivre ensemble, ça permet de vivre plus longtemps, c'est surprenant quand même.
Mais non, c'est prouvé scientifiquement en fait qu'aimer ses proches, s'occuper d'eux réciproquement, ça permettrait de vivre plus longtemps et en bonne santé parce que vous synthétisez, vous sécrétez des hormones de bien-être, de bonheur qui vont notamment avoir une action anti-stress et qui vont favoriser la bonne santé.
D'accord. Mardi, vous nous emmenez en Italie, hein, en Sardaigne, au sud de la Sardaigne, à Seulo. Il y a un record mondial là-bas, 0,3% de la population a plus de 100 ans. En fait, ils sont 300 centenaires sur à peu près 1000 habitants. Et pourtant, ils ne se privent pas de bien manger là-bas.
Bah, en fait, c'est ce qu'on va découvrir dans le programme. Effectivement, on arrive, on se dit, mais le repas est gargantuesque. Mais au final, vous apprendrez que l'alimentation est assez monotone, c'est-à-dire que tous les jours, ils ont un repas qui est assez similaire jour après jour et on n'est pas dans l'excès, quoi. On est dans la parcimonie plutôt. Ouais.
Angèle Ferreux,
quand on voit cette scène, on a l'impression qu'on est dans l'excès et que c'est un repas pas possible, mais en fait, c'est très très exceptionnel. C'est ça qui est important de retenir, c'est que se faire plaisir, bien sûr, allons-y, mais par contre, une rigueur au quotidien, c'est ça une des clés.
Alors, quand on parle centenaire, on pense forcément au Japon, à l'île d'Okinawa, qui est l'île de la longévité. On sait même que les empereurs chinois, paraît-il, avaient envoyé des espions pour percer le mystère. Alors, vous n'êtes pas empereur, vous n'êtes pas chinois, mais vous avez percé le mystère.
On a essayé, effectivement. On a rencontré des personnages hauts en couleur et qui nous ont ouvert leurs portes sur leur mode de vie, sur leur alimentation. Et notamment le docteur Suzuki, avec qui on a abordé le pilier de l'ADN. Ce qui est fou à Okinawa, c'est que parmi leur ADN, il y aurait peut-être un gène qui leur permettrait soit de vivre plus longtemps, soit de les protéger de certaines maladies. assez dingue en fait quand on y pense.
Les zones bleues, il y en a 5 dans le monde, vous en avez parcouru 4. D'où vient le nom d'ailleurs ?
Alors, l'histoire raconte, on a rencontré Jenny Pes lorsqu'on a fait l'épisode de Sardaigne, qui au moment, lorsqu'on est en voiture, m'explique que voilà, il a fait la découverte fortuite que sur certaines régions du monde, il y avait une concentration dingue de nonagénaires et de centenaires. Il aurait eu à ce moment-là un crayon de couleur bleue quand il s'est mis un petit peu à stabiloter sa carte du monde. Et de là, on est arrivé le Blue Zone, la zone bleue. Ouais.
Voilà, les zones bleues, les secrets de la longévité. C'est un documentaire, une série documentaire à découvrir sur France 5 tous les mois de juillet, le mardi soir à 20h50. Merci à Vincent Valenduc d'avoir été ici en studio.
Merci
et
beaucoup.
Merci à vous, Angèle, d'avoir été par ligne avec
merci
nous.
Merci beaucoup. Je retrouve mes cigales et mes beignets de fleurs de courgettes.
Profitez-en bien. Merci et bon été.
Bisous, Angèle.
Au revoir.
Europe 1.
Dans un instant, vos régions sur un plateau. Tout cet été, Marion Sauveur va faire le tour des spécialités culinaires françaises. Ce soir, on s'arrête en Alsace avec la flammekuche, revisitée avec des saveurs italiennes par le chef Pierre Meyer. Oula, ça promet.
Et à 18h50, l'info revient dans un instant sur Europe 1 avec Sébastien Guyot et Marion Sauveur. On va vous ouvrir l'appétit. Hein. Le temps de vous dire que vous retrouverez aussi ce soir à 20h avec Émilie Mazoyer. Téléphone tout de suite sur Europe 1.
Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté. Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque autre rat. Voici le cœur de la vie, bat en toi. Et tu m'emmèneras. J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera. Que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour
téléphone New York avec toi, cultissime sur Europe 1, et justement à l'occasion de l'anniversaire de l'album Crache ton venin, Émilie Mazoyer recevra une partie du groupe ce soir avec tout plein d'autres invités, des archives, des surprises. Soyez au rendez-vous à partir de 20h sur Europe 1. Et d'ici là, 18h53, votre grand journal se poursuit avec Sébastien Guyot.
Et on accueille Marion Sauveur. Bonsoir Marion.
Bonsoir à tous.
Vous nous faites découvrir tout cet été les spécialités de nos belles régions de France.
Oui.
Vous nous emmenez où aujourd'hui ?
Alors dans une cuisine, figurez-vous. Mais voyons.
Près d'un four à bois, si on entend bien.
Exactement, dans la cuisine d'un restaurant à Flammekuche, la fameuse tarte flammée alsacienne. J'ai bien dit flammée, parce qu'on a tendance à l'appeler tarte flambée, alors qu'elle n'est pas du tout flambée. Elle est juste caressée par les flammes dans le four à bois.
Oh, c'est la différence.
Alors la Flammekuche, c'est le plat des grandes tablées. Une tarte réalisée à base d'une mince pâte à pain et pour la traditionnelle, tout simplement gratinée ou recouverte de crème, de lardons, de gratons, d'oignons et assaisonnée. Elle a vu le jour aux portes de Strasbourg, comme me l'a raconté l'Alsacien et directeur de la Maison de l'Alsace à Paris, Bernard Kuentz.
Cette tarte vient des paysannes du Korsberg, qui était le grenier à grains de l'ensemble de Strasbourg. C'est là que vous avez les champs de blé, les céréales et tout, qui permettaient d'approvisionner Strasbourg. Et donc, dans ces cours de ferme alsacienne, il y avait le four à pain. Et la paysanne faisait le pain non pas tous les jours comme le boulanger, mais une fois par semaine et gardait le pain pour la semaine. Et en faisant sa pâte à pain, souvent elle avait un petit reste de pâte à pain qu'elle étalait et sur laquelle elle mettait le reste de crème, des oignons et du lard. Avec le temps, évidemment, ça s'est un peu normalisé, ça s'est un peu formaté. Et aujourd'hui, les pâtes sont très très fines. Ce qui n'était pas le cas, la paysanne, elle ne s'embêtait pas à faire une pâte fine au millimètre près. Elle faisait sa pâte, elle mettait son ingrédient dessus, elle passait ça au four, il fallait que ça aille vite.
Et on se partageait ensuite donc cette tarte flammée, on la faisait tourner autour de la table avec un grand verre de schnapps, l'eau de vie alsacienne bien sûr, et chacun buvait un coup dans ce même verre. Aujourd'hui, on l'accompagne plutôt d'un verre de vin blanc d'Alsace bien sûr.
Bon alors nous, on n'est pas dans nos fermes alsaciennes, comment on fait chez nous pour faire une bonne flammekuche maison?
Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Aïe. Sébastien, la flammekuche, la vraie, réalisée donc dans un four à bois, on l'a dit, et malheureusement, on n'a pas tous ce genre de four à la maison. Hein. Ouais. Mais bon, même si le goût ne sera jamais le même que dans un restaurant à flammekuche, il y a quand même des techniques pour réaliser une bonne tarte flammée. Écoutez Bernard Kuenz.
On trouve tous les ingrédients de base. Vous trouvez les fonds de tarte que vous pouvez acheter et mettre votre garniture dessus. L'astuce, c'est de préparer sa crème et la plus utilisée. C'est un mélange de la crème épaisse et du fromage blanc qui apporte plus de légèreté. Il faut que ça reste fin. C'est comme le fond de tomate sur la pizza. Hein. Et après, c'est la chaleur du four. Le problème, c'est de chauffer le four au max. Et le four ménager, il s'arrête à 300 degrés. Et donc, à 300 degrés, vous brûlez pratiquement. Donc, il faut vraiment trouver la bonne température de cuisson. C'est un peu compliqué.
Bon, une fois que votre flammekuche sort du four, allez, vous la mettez sur la table.
Admettons qu'on a réussi.
Voilà. Vous coupez des parts pour tout le monde. Alors, le petit truc, c'est de rouler votre morceau de flammekuche. C'est beaucoup plus facile pour la manger avec les doigts. Ben oui, c'est convivial, la flammekuche.
C'est moins sale.
Alors, il y a un endroit à 10 km au nord de Strasbourg où vous dégustez de délicieuses flammekuches traditionnelles. C'est au Burestoubel à Poulgrisheim, une ancienne ferme alsacienne avec des colombages très typiques. Le chef devant le four à bois, c'est Pierre Meyer.
Bonsoir Pierre Meyer.
Oui, bonsoir. Comment
alors,
allez-vous?
Très bien. Et vous-même? Alors, vous
merveilleusement bien. Nous attendons le soleil, mais il ne devrait tarder.
Oui, mais le soleil, il est dans les assiettes. Et vous nous proposez, vous, une flammekuche aux saveurs italiennes. Dites-nous
oui.
Tout.
Oui. Alors, nous, on appelle ça la tarte flammée de l'été. C'est-à-dire, on retrouve un peu toutes ces saveurs qui nous viennent d'Italie. Et on a travaillé ce produit surtout pour l'apéritif chez nous au restaurant. Donc, est-ce que je vous fais le détail? Dites-moi.
Ah, dites-nous tout, dites-nous de quoi elle est composée.
Alors, la base est toute simple. On reste toujours sur cette fameuse pâte à pain étalée très fine. On va poser par-dessus le fromage à tarte flambée, donc fromage et crème épaisse, assaisonné avec tout ce qu'il faut, l'huile de colza torréfiée, sel, poivre et tout ce qui va avec. Et c'est là que l'Italie arrive. On va mettre de la mozzarella dessus. Et on va la passer au four, donc cuisson 2 minutes dans un four à 350 degrés. Cette tarte flammée ressort et c'est là qu'on va mettre le jambon cru qu'on aura préparé donc chez nous dans nos fumoirs tout l'hiver. On va le poser dessus, on va le poivrer directement, on va mettre de l'huile d'olive et de l'huile de colza, du jus de citron, du basilic et du vieux parmesan. Et voilà, vous aurez la tarte flammée de l'été, version alsacienne.
Et italienne. Ça ressemble un petit peu à une pizza, en quelque sorte.
Légèrement, tout à fait. Mais toujours avec ce fromage à tarte flambée qui est bien typique de chez nous.
Et des produits locaux, hein, surtout, ça c'est
toujours.
Très important.
Alors, mais tout est fabriqué, sauf la seule chose qu'on ne sait pas encore faire, la mozzarella et le parmesan. Tout le reste vient bien de chez nous et de nos régions, bien sûr.
Et vous maintenez le savoir-faire traditionnel de quelle façon?
Ah ben, le savoir-faire, c'est simple, c'est tout est fait dans nos cuisines. Nous, alors, on reste là-dessus, du début de la pâte jusqu'au lardon, maintenant parlant de la traditionnelle, tout est fait chez nous, à l'ancienne, comme le faisaient mes grands-parents, mes parents. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma fille qui a pris le relais, qui aujourd'hui est une des seules filles, je crois sinon la seule, qui cuit la tarte flammée dans notre restaurant avec une fierté totale.
Voilà. Merci, merci Pierre Meyer.
Merci à vous.
On peut déguster vos flammekuches. Alors, vous allez me dire si je prononce bien.
Au
Burestoubel, c'est ça?
Au Burestoubel,
à Poulgrisheim, tout près de Strasbourg.
Ah, c'est pas mal.
À 10 km de Strasbourg, tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous et à bientôt.
Pas que des tartes flammées, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de spécialités locales qu'on peut déguster chez vous.
Merci Marion Sauveur. On vous retrouve samedi prochain pour découvrir une nouvelle région de France via notre fourchette.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h avec Fabienne Lemoyle. Et puis ce sera le Club Tour, comme chaque soir, avec Axel May. Bonsoir Axel.
Bonsoir Sébastien.
Vous allez nous faire le débriefing de cette étape et avec un Julien Alaphilippe toujours en jaune.
Oui, oui, on va bien sûr reparler de la victoire du Sud-Africain Darryl Impé, de cette échappée qui a pris plus de 15 minutes d'avance sur le peloton, et Julien Alaphilippe qui a bien profité de son maillot jaune en ce jour de fête nationale. On est ici, vous le savez, à Brioude, sur les terres de Romain Bardet. On l'a vu un petit peu à l'avant en fin d'étape, Romain Bardet. On devrait d'ailleurs être avec le père de Romain, qui est aussi son entraîneur, ou qui l'a dans le passé entraîné, Philippe Bardet. On parlera de tout ça et puis on se posera comme question, est-ce que le Tour de France mérite d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Vous le savez, il y a les députés qui ont demandé ça dans le journal du dimanche ce matin. Tout ça, le débat, le débriefing et puis l'étape de demain avec sans doute une arrivée au sprint. On en parlera avec Thomas Veuclair et notre consultant avisé Patrick Chassé.
Bien sûr, c'est juste après le journal de 19h de Fabienne Lemoyle. Merci Axel, à tout de suite.
Sébastien Guyot sur Europe 1.